Vous ne le savez peut-être pas, mais la Station Spatiale Internationale est vouée à disparaître. Pour la remplacer, l'idée est de créer une première base lunaire qui servira de point relais entre la Terre et Mars. On pourra y créer directement des engins et autres besoins technologiques pour voyager vers la planète rouge. Mais du coup, je me suis posé la question suivante. Pourrait-on vivre sur la Lune? Et surtout, si oui, quand? Vous écoutez l'épisode 66 du podcast Time Polyglotte, et aujourd'hui, je vous propose d'embarquer pour un voyage vers la Lune. Je sais pas vous, mais moi, quand j'étais petit, j'adorais Tintin. J'ai toutes les BD, j'aimais bien d'ailleurs l'adaptation à la télé aussi, et l'histoire qui m'a le plus marqué, c'était Objectif Lune, et on a marché sur la Lune, une histoire en deux tomes. Je pense que vous avez tous en tête la fameuse fusée avec les carreaux blancs et rouges. Ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, quand je lisais ce genre de truc, ça me faisait rêver, c'était vraiment trop bien, et maintenant, c'est sur le point de se réaliser. Donc pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est pas un secret, hein. Je suis un fan de science-fiction, que ce soit du cyberpunk, de l'exploration spatiale, des villes futuristes ou des dystopies, franchement, j'aime tout. J'ai une petite préférence quand même pour les univers cyberpunk et les voyages dans le temps, hashtag Back to the Future et Blade Runner. Mais bref, revenons au monde réel. Vous avez peut-être entendu parler de la mission Artemis de la NASA. Si c'est pas le cas, laissez-moi vous expliquer de quoi il s'agit. Je vais pas rentrer trop dans les détails techniques, mais je vais essayer de vous vulgariser tout ça. Donc pour plus de détails, je vous invite à voir la vidéo de la NASA, qui est en lien dans la description de cet épisode. C'est une vidéo qui est super bien réalisée, avec de superbes animations et très facile à comprendre. D'ailleurs, regardez bien les liens en description parce que je vais vous mettre les vidéos et articles que j'ai utilisés pour cet épisode. Mais avant de rentrer dans les explications de la mission, pourquoi on veut retourner sur la Lune? Quel est l'intérêt? En fait, on a passé beaucoup de temps à travailler avec la Station Spatiale Internationale, l'ISS. Ça fait environ 25 ans qu'on l'utilise, mais elle n'est pas faite pour des voyages spatiaux. Disons que c'est une première étape pour tester plein de choses et analyser nos alentours, mais aussi comprendre comment le corps humain réagit en vivant dans l'espace. Mais le but ultime, comme je le disais dans l'épisode qui parle de la colonisation de Mars, c'est d'envoyer des humains sur la planète rouge. Cependant, on ne peut pas faire ça comme ça. Il faut d'abord aller sur la Lune, qui servira de point relais, et on pourra commencer à s'habituer à vivre sur un autre corps céleste, et surtout apprendre à construire et travailler depuis un autre lieu que la Terre. Parce qu'il va falloir de grosses infrastructures sur la Lune, et dans son orbite, pour envoyer des gens sur Mars. Et puis il ne faut pas oublier qu'il faut aussi aller explorer le pôle sud de la Lune pour voir si la glace qui y est présente peut être utilisée. C'est le travail du rover Viper que la NASA va bientôt envoyer. Il pourra aller explorer et quantifier l'eau extractable, bref, il y a encore beaucoup à faire. Il y a 4 phases pour compléter la mission Artemis. Actuellement, on en est à la phase 2. La première phase a été accomplie entre le 16 et 21 novembre 2022. Elle consistait à lancer le vol Artemis et la capsule Orion autour de la Lune. Pour info, la capsule Orion est en fait la partie supérieure de la fusée dans laquelle les astronautes se trouveront. L'idée de ce premier vol était de vérifier l'orbite, le fuel et tous les autres aspects techniques liés au voyage en lui-même. Parce que c'est bien de faire des maths et toutes sortes de calculs, mais c'est quand même mieux de tester tout ça avant d'envoyer des gens à bord. L'autre objectif de cette première mission était de mettre à l'épreuve le bouclier thermique de la capsule Orion pour son entrée dans notre atmosphère. Il s'agit du plus grand bouclier thermique de l'histoire et il devait être capable de résister à des températures presque aussi folles que celles de la surface du Soleil, à savoir environ 5000 degrés Fahrenheit. Autant dire que si on veut pas retrouver quelques brochettes grillées, mais bel et bien des astronautes sains et saufs, il valait mieux s'assurer que ça fonctionne. En bref, cette première mission a été un succès. Yay! Grosso modo, Artemis 2, c'est la même mission, mais avec des humains à bord. L'équipe est composée de 4 astronautes, 3 Américains, dont une femme et un Afro-Américain, et un Canadien. Je précise parce que c'est historique. C'est la première femme et le premier homme noir qui participent à une mission lunaire, donc ça mérite quand même d'être précisé. Bon, pour le moment, Artemis 2 et 3 sont reportés à plus tard, mais on devrait quand même pouvoir assister à Artemis 2 en 2025 et Artemis 3 en 2026 ou 2027. C'est encore un petit peu flou. En fait, il y a encore des petits soucis techniques, surtout pour Artemis 3, mais les tests de Starship Human Landing System, donc HLS, système de la société SpaceX, permettant aux humains d'atterrir sur la Lune, sont plutôt encourageants. Je vous invite à aller regarder tout ça sur la chaîne de SpaceX directement. Vous pouvez regarder tous les lancements. C'est vraiment très cool. Parlons maintenant de la troisième mission Artemis. Cette mission est prévue pour être la plus importante et ambitieuse jusqu'à présent. Pendant la mission Artemis 3, les astronautes, dont on ne connaît pas encore leur nationalité, auront l'occasion de séjourner sur la Lune pendant une durée de 6 jours. Ça représente deux fois plus de temps que la durée des séjours effectués lors du programme Apollo, qui a eu lieu entre 1969 et 1972. À la fin de leur séjour, les astronautes rejoindront le module Orion, qui restera en orbite lunaire, avant de revenir sur Terre, à bord de la même fusée utilisée pour le voyage aller. Et enfin, on arrive à la mission Artemis 4, où nous aurons enfin la chance de voir des astronautes s'installer sur la Lune, dans le but de préparer un vol habité vers Mars. Donc ça, c'est une perspective vraiment incroyablement excitante, selon moi, et ça pourrait se réaliser d'ici la fin des années 2030. Mais imaginez des humains qui puissent voyager dans l'espace pendant au moins 2 ans aller-retour est tout simplement fascinant. C'est une étape cruciale dans notre quête pour conquérir l'espace, et tout dépendra de la réussite de cette mission. Alors moi, je vous raconte tout ça en tant que fan, hein. Je suis pas du tout dans ce domaine, je suis pas assez compétent pour parler de toutes ces choses de manière très technique. Et justement, en fait, de voir un peu toutes ces prévisions, bah, je me demande si on sera capable, par exemple, d'avoir suffisamment d'énergie, de nourriture, d'eau et d'infrastructures même pour utiliser la Lune de la même manière qu'on utilise la Terre. C'est une question qui me taraude et qui pousse ma curiosité à son paroxysme, on peut le dire. Je suis impatient de voir comment les scientifiques et les ingénieurs vont relever ce défi colossal, honnêtement. Et franchement, cette mission représente bien plus qu'un simple voyage vers la Lune, comme on l'avait fait déjà par le passé. En fait, ici, c'est une aventure humaine extraordinaire qui nous permettra de repousser les limites de ce qui est possible actuellement. On va devoir développer de nouvelles technologies, trouver des solutions innovantes, et surtout bah, travailler en équipe hein, pour assurer le succès de cette mission historique. Et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est la collaboration de la NASA avec des entreprises privées comme SpaceX et d'autres. Je trouve que c'est vraiment génial de travailler tous ensemble pour bah, ce qui est finalement pour moi le but ultime de l'humanité. En fait, pourquoi on est là? Quel est l'objectif de l'être humain? Bah, c'est de survivre et de s'expandre, en fait. Hein. Donc de perdurer dans le temps. Et en fait, disons que la colonisation de notre système solaire, et au-delà peut-être si on s'aventure dans de la science-fiction encore plus avancée, on va dire, bah c'est la solution finalement pour résister un petit peu plus longtemps. Puisque là, bon, actuellement, si y a une catastrophe qui se passe sur Terre, une catastrophe naturelle, une nouvelle ère glaciaire, j'en sais rien, peu importe, eh bien, ou même une guerre nucléaire qui détruit absolument tout, bah finalement, les chances de survie de l'être humain sont de 0%. Alors que si on divise finalement les gens sur deux planètes, bah, y aura toujours un peu plus de chances de survie. Donc c'est vraiment hyper intéressant là-dessus. Et d'ailleurs, je précise que moi, voilà, je suis un fan de l'extérieur et je parle de ça dans ma chambre devant mon microphone. Mais honnêtement, je ressens une immense admiration pour ces astronautes qui sont prêts à tout laisser derrière eux pour se lancer dans cette aventure incroyable. Leur courage et leur détermination, c'est pour moi une source d'inspiration et je pense que ça l'est pour nous tous. J'espère que cette mission marquera le début d'une nouvelle ère de l'exploration spatiale où nous pourrons coloniser d'autres planètes et étendre notre présence dans l'univers. En y réfléchissant, je réalise que cette mission soulève également de nombreuses questions et défis auxquels on va devoir faire face. Par exemple, comment on va assurer l'approvisionnement en énergie, en nourriture et en eau pendant un voyage spatial aussi long? Là, je parle pour aller sur Mars, hein. Comment on va aussi construire des infrastructures adaptées sur la Lune? Parce que ça, c'est encore un petit peu un mystère. Hein. Il y a plusieurs designs, il y a plusieurs idées, mais honnêtement, je ne sais pas trop si ça va être encore un système de bulles ou des grottes souterraines. Enfin bref, il y a plein de théories possibles. Hein. Donc ça, c'est des questions qui demandent des réponses et qui nécessiteront une réflexion approfondie de nos meilleurs ingénieurs, effectivement. Mais quoi qu'il en soit, je suis convaincu que la mission Artemis 4 marquera l'histoire de l'humanité. Marquez bien mes mots. En fait, ça ouvre la voie à de nouvelles possibilités. Et surtout, ça nous rapproche un peu plus bah, de notre rêve de conquête spatiale. Hein. On est presque dans Star Wars, là. Je suis impatient de suivre les progrès de cette mission et de voir bah, ce que l'avenir nous réserve. C'est une époque passionnante. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment une époque passionnante où l'exploration spatiale devient de plus en plus accessible, en plus. Parce que franchement, dans quelques temps, vous et moi, on pourra aller sur la Lune. Et les étoiles, comme on dit, sont à portée de main. Il ne nous reste plus qu'à les saisir. Je sais pas où est-ce que j'ai trouvé cette phrase, mais y a quelqu'un qui a dit ça un jour. Je vole cette phrase sans aucune honte. Bon, je fais une petite pause ici pour vous parler de mon meilleur ami d'enfance, Paul. C'est un peu avec lui que je suis tombé dans l'astronomie. Je me rappelle que son père avait un télescope super pour l'époque et qu'on restait éveillé le soir pour voir la Lune et Vénus chez lui. Donc c'était vraiment trop cool. Et je vous propose qu'on l'appelle pour discuter un peu avec lui de tout ça, de tout ce qui est science-fiction, voyage dans l'espace, etc. Alors, mon Polo, comment que ça va-t-il ?
Eh bien, écoute, ça va. On est vendredi. C'est bien.
Tu
je suis content.
La vie est belle. Est-ce que tu peux vite fait te présenter ? Parce que bon, j'imagine qu'il n'y a personne de mes auditeurs qui te connaissent. Qui es-tu pour moi, mon cher Polo ?
Eh bien, Paul Serre, 31 ans. Je suis un de tes meilleurs potes depuis qu'on est tout petit.
Tu es même mon meilleur ami d'enfance, en fait. Hein. Je dis toujours ça. En fait, tu sais, je dis toujours, j'ai des potes. Enfin, j'ai des amis. Enfin, non, j'ai des copains. Mais par contre, j'ai deux amis. Il y a toi et il y a Quentin.
D'accord, bah, c'est gentil. Mais ouais, c'est ça, pareil, pareil pour moi. Et puis, voilà, je travaille sur Grenoble, je travaille chez Air Liquide.
Voilà, est-ce que tu peux expliquer vite fait, justement, c'est quoi ton domaine, toi, de professionnel, je veux dire ?
Alors, moi, je suis ingénieur en chimie. Pour aller assez vite, j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait un brevet de technicien supérieur en chimie. Puis j'ai fait 3 ans d'école d'ingénieur en alternance en chimie.
Excellent.
Et puis ensuite, j'ai fait quelques expériences pro. Et puis maintenant, je suis sur Grenoble.
Très bien. D'ailleurs, on tease un peu. Peut-être qu'un jour, on fera un épisode sur une grosse expérience que peu de gens ont la chance de faire. Puisque toi, tu as vécu en Antarctique.
C'est ça. J'ai fait une mission là-bas entre novembre 2016 et janvier 2018 pour l'Institut polaire français, Paul-Émile Victor. En tant que glaciologue sur place, donc en hivernage, donc je suis resté plus d'un an sur place pour
trop cool.
Gérer les programmes scientifiques, etc.
C'est trop cool. Donc finalement, en plus, parce que là, du coup, aujourd'hui, on va parler un peu de conquête spatiale, de rêves de gosse qu'on aimerait bien voir peut-être un jour se réaliser ou pas. Mais toi, finalement, en fait, t'as vécu dans un endroit sur notre planète qui se rapproche le plus d'une planète étrangère, finalement, quoi.
C'est un petit peu ça. La responsable de programme à LGGE à Grenoble, il disait que c'était un peu le dernier endroit avant l'espace, Concordia.
Ouais, c'est ça.
C'est une des 3 stations continentales d'Antarctique qui est habitée toute l'année, quoi. Et c'est vrai que, voilà, t'as l'impression d'être sur la Lune. T'as l'horizon à 360 degrés. C'est vrai.
D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, mais en ce moment, il y a notre bon Thomas Pesquet qui est là-bas.
Alors, pas du tout. J'avoue que. En fait, je regardais un petit peu les news de Concordia quand je suis rentré après 2018. J'ai suivi pendant un an et quelques, mais maintenant je ne suis plus du tout parce que j'ai un espèce de mélange de nostalgie et puis en même temps je me verrais pas du tout y retourner, donc j'essaie de plus rien regarder. Genre, j'ai coupé. Je recevais plein de publications Facebook là-dessus et en fait j'ai tout coupé, j'y vais plus sur Facebook du tout, je reçois plus rien. Mais je savais pas, c'est super. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas
en ce moment Alors je t'avoue que je sais pas trop, j'ai vu, parce que moi je le suis du coup lui sur Instagram, et j'ai vu qu'il était là-bas, je sais pas combien de temps il y reste, mais il reste pas longtemps. Hein. Je crois qu'en gros il rend visite un peu et il fait un peu de publicité aux installations et à ce qui se passe là-bas, je pense.
Ah, c'est super, mais, nous on avait eu l'occasion de faire une conversation vidéo avec Paolo Nespoli, qui est astronaute italien, qui était sur l'ISS, mais par contre la liaison était vraiment, c'était terrible, on avait une image, une frame toutes les 3 secondes, enfin... C'était compliqué. Mais ça c'est dommage, j'aurais bien voulu être là-bas avec Thomas Pesquet, j'ai jamais rencontré ce mec.
Donc pour ceux qui savent pas, je précise quand même, Thomas Pesquet c'est notre astronaute français, et puis disons que c'est pas le moins bon, puisque bon, il a été, capitaine de l'ISS entre guillemets, enfin celui qui gère quoi. Donc voilà, c'est notre fierté française. D'ailleurs, j'ai pas acheté, mais j'aimerais bien acheter son livre, puisqu'il a fait des belles photographies depuis l'espace. J'aimerais bien acheter son livre, il a une belle édition et tout, c'est sympa.
Ah, c'est vrai qu'il en postait tous les jours, je crois, à un moment. On se demandait s'il n'était pas photographe, mais non. Mais non, il gérait toutes ses missions, et quand ils avaient une heure de libre, ils allaient photographier dans la coupole.
J'avoue. J'avoue que tu dois trouver le temps long aussi là-bas. Hein. Mais bon, expérience incroyable en tout cas. Est-ce que tu peux... Alors du coup, on va peut-être pas avoir les mêmes réponses, hein, mais moi, On va dire que je me rappelle de certaines choses avec toi quand on était petit en parlant d'astronomie. Peut-être qu'on n'a pas les mêmes souvenirs. Mais toi, du coup, comment t'es tombé dans l'astronomie? Parce que c'est un truc qui nous a toujours un petit peu plu sans... Enfin, on est amateur, quoi, évidemment, mais ça nous a toujours un peu attiré quand même.
Ouais, bah moi j'ai assez peu de souvenirs de d'avant mes 6-7 ans. Enfin ça revient par flash, mais c'est vraiment
Ouais.
très très limité quoi. Et je pense que le gros démarrage, bah, c'est quand mon père m'a montré Star Wars l'épisode 4 quoi. Mais je pense qu'il m'avait quand même, j'avais eu quelques bouquins sur les étoiles, etc. avant. Mais c'est vrai qu'après ça, c'est plus la science-fiction, je pense, qui m'a fait rentrer dans l'astronomie. Parce que
Ouais.
du coup t'avais Star Wars et puis tu sais bah vu qu'on aimait tous les deux, enfin tu pourras en parler toi pour toi, mais on aimait tous les deux Star Wars, donc on jouait beaucoup aux personnages, à Star Wars, etc. Et du coup ça m'a poussé après à regarder un peu bah, ce qui se passait en vrai quoi, genre les planètes, les trous noirs, et ce genre de trucs.
Exact. Je me rappelle qu'en fait, c'est toi. Alors, moi, j'avais déjà vu Star Wars un peu en diagonale, entre guillemets, mais c'est toi qui m'as vraiment lancé dans Star Wars. Et c'est toi qui avais commencé la collection des personnages et tout ça. Et c'est vrai qu'après, bon, on a passé notre temps un petit peu avec ça. Et puis, bah, moi, en fait, c'est un peu pareil. C'est surtout la science-fiction qui m'a toujours plu. Même encore maintenant, tu vois, je dis toujours aux gens, dans un monde alternatif ou dans un futur lointain ou quoi. Il y a un truc qui me fait vraiment rêver, entre guillemets, c'est le concept de l'être humain qui est explorateur, mais justement être dans ton petit vaisseau et aller explorer les planètes, tu vois. Et juste, tu sais, tout seul dans ton petit vaisseau, tranquille. Et je sais pas, il y a un truc qui émerveille avec l'espace. Je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, ça attire, quoi.
Ouais, c'est sûr. Non, c'est génial parce que ouais, t'as toutes les planètes, un peu les différents mondes et les différentes espèces aussi représentées pas mal dans Star Wars.
Et je me rappelle, tu sais, pour revenir un peu sur l'astronomie pure et dure, je sais pas si ça va te rappeler quelque chose. Je pense qu'on était en CM1 ou en CM2, je sais plus. On devait faire un exposé justement sur une des planètes du système solaire. On avait fait un exposé tous les deux sur Vénus. Je sais pas si tu te
Si,
rappelles.
je me souviens. Je me souviens
Tu te rappelles,
bien.
on avait fait ça. On avait fait l'étoile du berger. Et donc, bref, moi, alors, pour tout dire, encore une fois, comme quoi tu as eu beaucoup d'influence sur moi. L'astronomie, en fait, je pense que ça vient de toi aussi vraiment. Parce que je me rappelle que ton père, à l'époque, il avait acheté un télescope qui était trop cool. Et je me rappelle qu'une fois, on était sur ta terrasse, dans ta maison d'enfance, et ton père avait programmé justement pour voir Vénus ce soir-là, ou je sais plus exactement.
Ouais,
Mais...
ben sympa ce télescope, on l'a toujours d'ailleurs. Enfin, mon père l'a toujours.
Ah ouais?
Et
Ah,
ouais,
trop
bel
cool.
investissement parce qu'il est bien rentabilisé depuis. Bon, après, on s'en sert pas non plus tous les jours, mais c'est vrai que c'est sympa de l'avoir quand je reviens chez mes parents.
Bon alors, rentrons un peu dans le vif du sujet. Au niveau astronomie, là, actuelle, est-ce que d'ailleurs, en toute honnêteté, est-ce que tu suis plus ou moins un petit peu ce qui se passe avec l'ISS, le projet Artemis, etc., ou pas trop, ou de loin?
De loin. Après, je regarde pas mal quand même les actualités sur SpaceX, avec le Starship entre autres. C'est le truc que je regarde le plus. Après, je suis pas non plus un fan inconditionnel de SpaceX, tu sais, à regarder tous les jours, tu sais, l'évolution de la Starbase, etc. Mais je pense qu'une
Oui.
fois toutes les 2 semaines, je regarde un peu l'évolution. Et maintenant, j'essaie. Ouais, je vais essayer quand même les prochains lancements de Starship d'essayer de regarder en direct. Je crois que le dernier, j'avais regardé en direct.
Ouais, moi j'essaye aussi, tu sais, je mets la notification sur YouTube, comme ça je suis notifié et je me
Ouais,
connecte.
bah je vais faire ça aussi.
Mais ouais, en fait, bah, du coup, Starship, du coup, fait partie intégrante du projet Artemis, hein, donc l'idée, ce sera pour la phase, j'ai pas envie de dire bêtises, pour la phase 4 ou même la phase 3, je crois.
Ah oui. J'avoue que là-dessus, je suis pas très calé. Enfin, je pensais qu'Artemis, tu sais, c'était le nom du bah, le programme de la NASA. Mais
C'est
j'avais.
ça.
Après, je sais ils vont faire appel à des lanceurs privés.
Oui.
Mais je savais pas que c'était vraiment intégré dans leur programme dedans.
C'est ça. En fait, ils ont plusieurs entreprises qui vont travailler avec eux, entre guillemets, mais le projet de base, c'est la NASA. Donc, le projet, c'est Artemis, et ça se développe donc en 4 phases. La première phase, elle est déjà passée. C'était donc bah, d'envoyer une fusée vide, entre guillemets, pour aller à la Lune, quoi, et revenir. La deuxième phase, ce sera d'envoyer donc des personnes dans la fusée, mais pareil, hein, faire un tour de la Lune pour vérifier si l'orbite et tout ça, tout est nickel pour retourner après sur Terre. Et la phase 3, donc, il y aura déjà, si tu veux, cette station en orbite autour de la Lune qui pourra justement accueillir. Parce qu'en fait, l'idée maintenant, c'est plus de se poser directement sur la Lune, c'est d'envoyer donc, si tu veux, ce vaisseau spatial. Je vais vraiment vulgariser, hein, mais ce vaisseau spatial va se docker sur cette station en orbite autour de la Lune, et cette station aura on va dire, un petit véhicule pour aller sur la Lune, tu vois. Et du coup, en fait, après, ils pourront repartir avec ce véhicule, docker sur la station en orbite, et repartir avec le véhicule qu'ils avaient pris pour aller là-dessus,
D'accord.
Pour rentrer sur Terre. Et donc, du coup, ça, ce sera la phase 3. Donc là, ils iront sur la Lune. Et la phase 4, c'est vraiment de s'établir sur la Lune. Et donc là, après, pour la phase 4, je crois que c'est là où rentre Starship vraiment dedans. Puisque, en fait, l'idée aussi, c'est de commencer à envoyer tout ce qu'il faut pour construire des choses sur la Lune, finalement, parce qu'il va falloir faire des infrastructures, etc., etc. Et puis, dans un futur après, ce sera un point relais, finalement, pour aller sur Mars, quoi.
Mmh.
Parce que
Ouais,
c'est
tout
ça
à
toute
fait.
l'idée, en fait, hein. Donc voilà. Je te pose des petites questions comme ça, hein. Là, si demain tu as une opportunité, on te dit ouais, tu peux aller travailler là-dedans, tu peux faire partie des membres pour aller sur la Lune, c'est un truc qui te. Tu signerais tout de suite ou pas?
Alors pour y aller, oui. Après, pour travailler vraiment sur le projet, depuis la Terre, pas vraiment. Moi, j'avoue que
Non, ok.
je préférerais, tu vois, faire un peu comme Concordia, tu sais, y aller pour faire des expériences sur place, maintenir une station en état, ou ça me dirait bien, ouais. Que ce soit sur la Lune ou sur Mars, hein, ça me va aussi.
Et ouais, sur Mars, ouais, évidemment, c'est encore autre chose. Chaque chose en son temps, comme on dit. Mais déjà, moi, la Lune, franchement, en fait, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais moi, je visualise un petit peu plusieurs choses. Alors là, c'est un peu mon côté science-fiction, hein, qui parle, mais j'imagine que. Parce qu'il va falloir quand même financer tout ça. Il y a pas mal. Maintenant, il y a des entreprises privées qui sont là-dedans, etc. Il va falloir un peu rentabiliser tous ces trucs-là. Donc, je pense que là, on l'a déjà vu. La première étape, ça va être de faire des vols juste dans l'espace, et après peut-être jusqu'à la Lune, mais en tout cas dans l'espace, pour des gens très riches, quoi. Je sais pas toi, mais moi j'imagine déjà un petit peu sur la Lune comme un resort, tu sais, pour des gens riches, un hôtel, un truc comme ça, tu vois. Et c'est là qu'on verrait, je sais pas si tu as vu la série, ça s'appelle The
Si, ouais,
Expanse.
j'aime beaucoup.
D'ailleurs, je crois que c'est basé sur des livres à la base, hein.
Oui, que je n'ai pas lu, mais que je vais commencer incessamment sous peu. Là, j'ai acheté le premier, là, où je le commence.
Et ben moi, j'ai envie aussi de les lire. En fait, j'ai plein de listes. Enfin, j'ai une grosse liste de livres de science-fiction, de classiques que j'ai pas lu encore, notamment les livres de Asimov et tout ça. Mais bon, l'idée justement, c'est que enfin, j'ai l'impression que c'est un peu inévitable. Je sais pas ce que t'en penses, que il va y avoir un peu cette comment dire, cette scission entre les classes sociales, encore une fois, puisque en fait tout ça, en tout cas dans un premier temps, ça va être réservé aux riches, et nous, les gens lambda, on va dire, on n'aura pas vraiment la possibilité de faire ce genre de voyage, quoi, pour le moment.
Ben, je sais pas. Je me suis toujours demandé si les mecs ultra riches, ça les intéresserait vraiment, tu vois, de partir dans des endroits comme ça où au final il y aura pas grand monde. Et au final, ils se sentiraient peut-être plus aussi puissants que sur Terre, tu vois. Je sais pas. Clairement, c'est. Ouais.
Je sais pas, hein. C'est pareil, tu sais, il y a un autre truc qui me chiffonne un petit peu, c'est quand. Parce que là, bon, pour le moment, on parle de la Lune, mais on a vu qu'en plus qu'il y a pas mal de pays maintenant qui sont dans la course, hein, il y a l'Inde, il y a le Japon qui a lancé. D'ailleurs, il y a le rover du Japon qui a atterri sur la Tête, là, il n'y a pas très longtemps, sur la Lune.
Oui, ça j'ai suivi.
En fait, je me. Ouais, t'as vu, c'était assez drôle, enfin comique, entre guillemets, parce que bon, il n'y a pas eu de casse, hein, donc c'est pas très grave. Mais je me demande un petit peu comment ça va fonctionner le jour où on va dire, ok, on s'établit sur la Lune, et encore pire, après sur Mars, qui va faire les lois, qui va dire, cette zone nous appartient, ou, tu vois, enfin, comment ça va se passer, tu vois? Parce que s'il y a plusieurs nationalités qui vont sur la même planète, va bien falloir partager les ressources, va falloir. Enfin, il y a tellement d'enjeux politiques, et c'est ça que j'aimais bien dans la série The Expanse, justement. qui traite un peu justement ça avec Mars. C'était de voir un peu tout l'aspect politique et tout ça, voir les pauvres qui restent sur Terre et qui n'ont plus trop de ressources, etc. Et les riches qui vont un peu sur Mars, quoi. Je vulgarise, mais c'était un peu l'idée, quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est compliqué comme sujet. J'ai un peu de mal à voir un peu jusqu'où ça partira, mais ouais, bah, dans The Expanse, c'est ça qui est intéressant, c'est que t'as la Terre qui a quand même gardé le contrôle sur, même sur la Lune, et puis avec Mars, ils se partagent le contrôle justement sur la ceinture, quoi.
Oui, voilà,
Après,
c'est ça,
bah,
t'as raison.
je pense que tout dépendra aussi des avancées technologiques, quoi.
Ouais.
Si t'as des grosses avancées technologiques qui fait que tu peux être un peu plus autonome, je serais pas étonné, tu vois, qu'il y ait des endroits où il y a des scissions, des choses où les premiers arrivés sur Mars, bah écoute, c'est voilà, c'est les Martiens et le reste, tu vois, enfin un peu comme dans The
J'avoue,
Expanse,
du coup,
quoi.
c'est la course, quoi. Ouais.
Ouais, après bon, je sais pas trop, mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, les efforts de développement, je veux dire, tu peux pas réussir une mission sur la Lune ou sur Mars si t'as pas une logistique de fou
Ouais,
depuis la Terre, quoi. Ça, pour
c'est
l'instant,
clair,
ça
c'est
semble.
clair.
Parce que je disais avant, là, le côté tu te sépares un peu de la Terre, etc., ça semble complètement utopique, quoi.
Ouais, c'est très lointain encore.
Enfin, pas dit que ce soit une utopie, mais.
Ouais. Est-ce que toi, tu penses que nous, on verra ça de notre vivant? On verra des gens sur Mars, enfin une colonie sur Mars vraiment? Parce que des gens sur Mars, je pense que oui. Mais est-ce que la possibilité de vivre sur Mars, je sais pas.
Vivre sur Mars, ça m'étonnerait. Après, je sais pas. J'ai déjà des gros doutes sur le fait qu'on retourne vraiment sur la Lune, tu sais, d'ici la fin de la décennie, là. Enfin, je pense que le doute est quand même peu permis, dans le sens où t'as quand même la course entre les Chinois et les États-Unis.
Ouais.
Mais ça semble peut-être moins bien parti pour les États-Unis que ça pouvait l'être avant. Enfin, en fait, non, je sais pas trop. Mais ouais, dans des dômes, sur la Lune, oui, mais sur Mars, ça me paraît quand même pour l'instant compliqué, quoi. Avant 50-60 ans.
Ouais, et puis il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur la Chine, justement. Donc, je pense qu'on voit ce qu'ils veulent qu'on voit, tu vois. Mais à mon avis, ils sont quand même bien préparés, quand même. Je pense que, enfin, c'est encore difficile de voir ça, mais là, par exemple, rien que le projet Artemis, ils ont repoussé déjà de 3 ou 4 années, justement, la phase 3, puisque je crois que c'était censé être en 2025, et en fait, ils parlent de 2027. Enfin, je sais plus exactement les dates, mais en tout cas, c'est repoussé déjà, quoi. Donc, j'ai l'impression que c'est encore très difficilement atteignable. Et du coup, tu sais, alors, loin de là, l'idée de donner raison aux conspirationnistes, hein, mais tu sais, les conspirations de « on n'a jamais été sur la Lune, c'est pas vrai, ça a été filmé sur des sets ciné et tout ça, quoi. » En vrai, c'est quand même fou de penser qu'on a été sur la Lune il y a tellement longtemps avec très peu de moyens, parce qu'en fait, franchement, les ordinateurs qu'il y avait à l'époque pour aller sur la Lune, ça tient dans une montre connectée maintenant, tu vois. Tu te dis merde, quoi. Et maintenant, c'est un projet qui est très complexe. Alors évidemment, il ne s'agit pas juste d'aller sur la Lune et de repartir. Il s'agit d'y aller, de s'installer et tout ça. Donc c'est pour ça que c'est aussi beaucoup plus compliqué au niveau logistique. Mais enfin, c'est vrai que ça me semble bizarre, tu vois, le fait qu'on a eu cette avancée technologique et que ça reste aussi compliqué, tu vois, pour y aller. C'est moi en amateur, je me dis mais comment c'est possible, tu vois? Pourquoi on n'y est pas déjà, tu vois? J'ai du mal à voir ça.
Bah, je sais pas, après, à l'époque, ils étaient vraiment dans une optique. Combien de missions t'as eu pour développer les lanceurs, le programme Gemini, etc. Avant d'arriver à l'objectif, quoi. Puis ensuite, tu vois, ils ont continué quand même. T'as eu des missions Apollo, t'en as eu pas mal, quoi. Et je pense que c'est ça qui manque aussi, c'est que. Ensuite, bah, ils ont arrêté. Et puis ensuite, tu reviens 40 ans, 50 ans après, faut tout recommencer, quoi. Enfin, même si t'as l'expérience d'avant, les technologies ont tellement évolué, t'es plus sur les mêmes lanceurs, plus sur. Enfin. Ça a beaucoup changé, ouais.
Ouais,
Et puis,
faut tout
t'as
revoir.
plus forcément les mêmes moyens non plus qu'à l'époque. Du fait du contexte économique aussi qui joue pas trop en faveur, je trouve, des États-Unis, mais bon, c'est compliqué de se prononcer là-dessus.
Bah, heureusement
On
qu'il y
a
a des entreprises
l'impression,
privées,
mais.
hein, finalement.
Oui, et puis oui, ils jouent beaucoup sur le privé. Autant il y a des entreprises pour lesquelles ça marche bien comme SpaceX, autant tu vois pour Boeing, c'est plus compliqué, hein.
C'est
Boeing,
ça,
ils sont un
c'est
peu au fond
ça.
du trou là depuis. Bon, on va pas parler que de Boeing, mais j'ai l'impression, enfin d'après ce que j'ai lu, les articles, etc., ils ont l'air au fond du trou, aussi bien pour l'aviation que pour le spatial.
Ouais, ça va mal, hein.
Ça fait rire,
Le
mais c'est pas
ricra.
drôle.
Non, c'est ça, c'est ça. Non, c'est sûr. Bon, maintenant, si vous le voulez bien, revenons au sujet du jour, à savoir la Lune. Je vous propose de voir ce qui pose problème pour vivre sur la Lune, parce que c'est vraiment quelque chose qui présente plusieurs défis majeurs. Donc, premièrement, on a l'atmosphère. Tout d'abord, il est important de souligner que la Lune ne possède pas d'atmosphère protectrice similaire à celle de la Terre. Contrairement à notre planète, il n'y a pas d'air à respirer et aucune pression atmosphérique normale. Et cette absence d'atmosphère présente donc un défi majeur pour les astronautes qui prévoient de se rendre sur la Lune. Ils devront être équipés de systèmes de protection avancés pour faire face à l'environnement lunaire hostile. Ces systèmes devront garantir leur sécurité et leur permettre de survivre dans des conditions extrêmes où la présence d'air et d'une pression atmosphérique normale ne sont pas garanties. En plus de ça, l'absence d'une atmosphère rendra également les déplacements et les communications plus difficiles, parce qu'il n'y a pas de moyen de propager le son ou de fournir une assistance de navigation visuelle. Ensuite, on a aussi le problème des radiations. Sur la Lune, il n'y a pas de magnétosphère qui protège contre les radiations solaires et cosmiques. Les astronautes devront être protégés de ces radiations potentiellement dangereuses. En fait, ça va nécessiter des mesures de protection supplémentaires, comme par exemple des combinaisons spatiales renforcées et des abris spéciaux pour minimiser l'exposition aux rayonnements nocifs. Ensuite, on a aussi, évidemment, les problèmes de gravité. La gravité de la Lune est beaucoup plus faible que celle de la Terre, ce qui pourrait avoir des effets négatifs sur la santé des astronautes à long terme, comme par exemple la perte de densité osseuse et musculaire. C'est pour ça que vous voyez les astronautes toujours en train de faire de l'exercice physique dans la Station Spatiale Internationale, par exemple, puisqu'en fait, le manque de gravité affecte les muscles et les os. Donc les scientifiques et les ingénieurs devront concevoir des programmes d'exercice et des équipements spéciaux pour contrer ces effets négatifs et maintenir la santé des astronautes. Évidemment, on a aussi le problème des ressources. La Lune ne dispose pas des mêmes ressources naturelles que la Terre, et donc les astronautes devront trouver des moyens pour subvenir à leurs besoins essentiels, tels que la nourriture, l'eau et l'énergie, et ça pourra impliquer la mise en place de systèmes de recyclage sophistiqués pour maximiser l'utilisation des ressources disponibles sur la Lune. Et il va falloir également développer des nouvelles technologies pour exploiter les ressources locales de manière durable. Et je parle pas que de la nourriture, de l'eau et de l'énergie. Je parle aussi, par exemple, du minerai, etc., pour pouvoir avoir des matières premières et construire des choses sur la Lune. Parlons également de l'isolation. Vivre sur la Lune signifie être loin de la Terre et de la famille pendant de longues périodes. L'isolement psychologique, on le sait, peut être un défi pour les astronautes, et donc pour atténuer ces effets, des mesures de soutien psychologique devront être mises en place, telles que des séances régulières avec des psychologues, des communications fréquentes, avec les proches sur Terre par exemple, et en plus des activités de groupe et des programmes de loisirs devraient également être implémentés au sein du groupe des astronautes sur la Lune pour faire en sorte que le séjour soit plus agréable. Alors pour l'approvisionnement en nourriture, je vais revenir sur ce point, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé pour la colonisation de Mars, et en fait il y a des défis majeurs pour l'approvisionnement en nourriture, puisque évidemment on va pas faire un petit jardin potager sur la Lune, c'est pas comme ça que ça fonctionne malheureusement, et donc les astronautes devront compter sur des méthodes de culture comme les cultures hydroponiques et d'aquaponie, pour produire leur propre nourriture. Donc en gros, c'est des méthodes qui permettront de cultiver des plantes en utilisant des solutions nutritives plutôt que du sol. Donc par exemple, ça peut être dans de l'eau directement ou directement dans du terreau importé même, mais pas planté directement dans le sol. Et en plus de ça, des systèmes de recyclage des déchets organiques, ce serait vraiment bien de mettre ça en place pour aider justement à fournir les nutriments nécessaires pour la culture des plantes. Donc ça, c'est quelque chose dont j'avais déjà parlé plus en détail sur l'épisode sur la colonisation de Mars, et donc je ne veux pas m'étendre plus sur ça. Pour ce qui est de l'énergie, honnêtement, ce qui me semble le plus probable, c'est d'utiliser évidemment beaucoup l'énergie solaire, parce qu'il va falloir beaucoup d'énergie. Faut savoir que les panneaux solaires, c'est bien, mais il va falloir alimenter les habitats lunaires et les équipements scientifiques, et surtout avoir assez d'énergie pour construire des choses. Puisqu'il va falloir faire une base lunaire, donc l'idée c'est aussi de construire du matériel et notamment des vaisseaux peut-être spatiaux, donc ça va demander énormément d'énergie, ça va être vraiment très compliqué et colossal. Pour ce qui est des communications, là honnêtement je suis moins inquiet, alors je sais pas si c'est une erreur de ma part, mais je pense que ça va être quand même beaucoup plus simple, parce que même si la Lune évidemment est située à une distance considérable de la Terre, en fait, la communication pour les astronautes via la Lune, enfin de la Lune vers la Terre et vice-versa, Je pense que ça va être fait quand même avec des relais de satellites en orbite lunaire. Et je pense que ça, c'est déjà bien développé quand même, notamment par SpaceX qui met justement bah, tous les satellites en orbite en ce moment. Donc ça, je pense pas que ce sera hein, le plus gros des problèmes du programme Artemis. Et enfin, je peux rajouter un dernier point qui est un point durabilité. En fait, lors de la vie sur la Lune, il sera essentiel de préserver et de protéger l'environnement lunaire. Donc les astronautes vont devoir adopter, on va dire, des pratiques durables, telles que bah, la gestion efficace des déchets, la réduction de l'empreinte écologique, etc. C'est des sujets qui peuvent paraître un peu stupides, peut-être, à l'heure actuelle, parce que c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus important dans notre esprit, mais il faut y penser tout de suite. Parce que bon, la recherche de nouvelles technologies respectueuses de l'environnement pour l'exploitation des ressources lunaires, ça va être crucial pour assurer justement la durabilité à long terme du coup. C'est un pléonasme, mais l'idée c'est de se projeter sur le long terme. Bon alors maintenant ce que je vous propose c'est de faire un petit peu un débrief de cet épisode et vous donner un petit peu bah, quelques pensées que j'ai pour compléter un petit peu toute cette histoire. Donc la colonisation de la Lune présente de nombreux avantages potentiels. Tout d'abord, on a vu qu'elle pourrait offrir un accès à des ressources rares présentes sur la Lune, telles que des minéraux, des métaux précieux, etc. Et ces ressources pourraient être utilisées pour soutenir les futures missions spatiales, voire pour résoudre des problèmes de rareté de ressources sur Terre. C'est aussi une possibilité. En plus, la colonisation de la Lune permettrait une recherche scientifique accrue. Les scientifiques pourraient mener des études approfondies sur la Lune elle-même, ainsi que sur l'impact en fait de l'environnement lunaire sur le corps humain. Parce que jusqu'ici, on a fait beaucoup de tests sur l'impact de la vie, on va dire, sans gravité dans l'ISS, mais on n'a pas encore fait vraiment trop de tests sur eh bien, l'impact de l'environnement lunaire sur le corps humain. Donc ça permettrait de mieux comprendre justement les effets de la gravité réduite, de l'absence d'atmosphère, des radiations, etc. sur la santé des astronautes. Du point de vue économique, la colonisation de la Lune pourrait offrir des opportunités d'exploitation minière. Les ressources présentes sur la Lune pourraient être extraites et utilisées à des fins commerciales. C'est une possibilité. Ce qui pourrait stimuler bah, l'économie, créer de nouvelles industries, etc. Là, de plus, il y a aussi le côté du tourisme spatial qui pourrait également être développé, offrant aux personnes comme vous et moi la possibilité de visiter une base lunaire et de vivre une expérience unique dans l'espace. Cependant, la colonisation de la Lune présente également des défis technologiques, environnementaux et éthiques. Sur le plan technologique, il faudra développer de nouvelles technologies pour permettre une vie durable sur la Lune, notamment en ce qui concerne la production d'énergie, la gestion des déchets, l'approvisionnement en nourriture et en eau, ainsi que la construction d'infrastructures adaptées. C'est ce que je disais auparavant. Sur le plan environnemental, eh bien, c'est ce que je disais en ce qui concerne la durabilité. Il faudra faire en sorte de préserver et de protéger l'environnement lunaire. C'est quelque chose d'important si on voit un peu tout ça sur le long terme. Et pour réduire en fait eh bien l'empreinte carbone finalement l'empreinte écologique si vous voulez. Donc c'est aussi quelque chose d'important à souligner. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus moi, c'est surtout sur le plan éthique. En fait, il y a plein de trucs qui me trottent dans la tête, plein de questions. Finalement, il sera crucial de prendre en compte les questions complexes liées à la propriété et à l'utilisation des ressources lunaires. En fait, étant donné que la Lune est un corps céleste accessible à tous les pays et à l'humanité dans son ensemble, bah des accords internationaux devront être établis pour garantir une utilisation équitable et responsable de ces ressources. On sait qu'actuellement, c'est la course un petit peu à la conquête spatiale entre l'Inde, le Japon, la Chine, même la Russie et les États-Unis. Donc, si vous voulez, il va falloir un petit peu se répartir les parts du gâteau, si je puis dire ça de cette manière-là. Et c'est quelque chose qui peut poser problème au niveau des lois, au niveau de l'éthique. Une hypothèse possible serait la création d'une organisation internationale dédiée à la gestion et à la réglementation des ressources lunaires. On pourrait construire une organisation qui pourrait être composée bah, de représentants de différents pays et qui aurait pour mission de développer des politiques et des règles pour l'exploration et l'exploitation des ressources lunaires. Et puis après, on peut évidemment amplifier ça pour Mars et d'autres planètes, etc. Et puis pour l'espace en général. Mais ces politiques pourraient inclure bah, des mécanismes de partage de bénéfices, des restrictions sur l'exploitation excessive, des mesures visant à préserver l'environnement lunaire, etc., etc. Sinon, il y a une autre hypothèse qui pourrait être mise en place, et c'est un système de quotas ou de licences pour l'exploitation des ressources lunaires. Donc, par exemple, les pays et les entreprises intéressées pourraient devoir obtenir une autorisation, on va dire, préalable, et respecter certaines conditions pour pouvoir exploiter les ressources. Ça permettrait de contrôler et de réglementer l'utilisation des ressources lunaires, tout en évitant une exploitation excessive ou, en tout cas, la monopolisation par certains acteurs, comme certains pays, etc. Et enfin, une autre hypothèse, une autre pensée que j'ai, c'est une hypothèse supplémentaire, on va dire, bah, ça pourrait être la création d'un fonds international pour le financement de la recherche et du développement lié à l'exploration et à l'utilisation des ressources lunaires. Et en fait, c'est intéressant parce que ce fonds, alors c'est hypothétique, mais en fait, il pourrait être alimenté par les bénéfices générés par l'exploitation des ressources et servirait en fait à financer des projets scientifiques, technologiques, environnementaux, etc., visant à améliorer notre compréhension de la Lune et à promouvoir une utilisation durable de ces ressources, et évidemment bah, aussi utiliser tout ça pour, encore une fois, la conquête spatiale au-delà de la Lune, quoi. Et donc c'est important de noter que bah, toutes ces hypothèses, évidemment, c'est purement spéculatif, hein. Ça nécessitera une coopération internationale étroite, un dialogue entre les pays, etc. Mais moi, c'est des choses qui me semblent hyper intéressantes. En fait, j'aime beaucoup le côté un peu politique de cet aspect colonisation spatiale, parce qu'en fait, on s'intéresse beaucoup au côté scientifique, au côté technique un petit peu de la chose. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est surtout bah, la course à cette colonisation spatiale et voir un petit peu bah, comment les pays travaillent main dans la main ou est-ce qu'il va y avoir des tensions, etc. C'est vraiment très intéressant, quoi. En conclusion, la colonisation de la Lune, on peut dire bah, qu'elle offre de nombreux avantages potentiels, comme je l'ai dit, hein, l'accès à des ressources rares, une recherche scientifique accrue, etc., l'exploration spatiale lointaine, des opportunités économiques, bref, on peut en citer en veux-tu en voilà. Mais évidemment, ça nécessitera des avancées technologiques significatives, une gestion environnementale responsable, une réflexion éthique approfondie, bref... La colonisation de la Lune marque une étape importante dans notre quête pour repousser les limites de l'exploration spatiale et devenir, et c'est ça l'objectif, une espèce interplanétaire. Ce que je rappelle, en fait, c'est l'objectif principal de l'être humain. En tout cas, pour moi et pour beaucoup, c'est un petit peu l'objectif principal de l'être humain. Si on se pose la question, quel est le but de notre existence, bah pour moi, c'est tout simplement de survivre et perdurer dans le temps pour continuer à grandir ensemble. Voilà. On arrive à la fin de cet épisode, les amis. J'ai essayé d'explorer les défis et les possibilités de vivre sur la Lune. Bien que de nombreux obstacles techniques et scientifiques restent à surmonter, les missions telles qu'Artemis de la NASA, je pense, nous rapprochent de la réalisation de ce rêve. Et la Lune pourrait servir de tremplin pour des voyages plus lointains dans l'espace, tels que la colonisation de Mars. Et en continuant à pousser les limites de l'exploration spatiale, on repoussera également les limites de ce qui est possible pour l'humanité. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, merci d'avoir écouté cet épisode, et restez à l'écoute pour de nouvelles aventures spatiales passionnantes !